Article 7. La journée de travail se compose de 13 heures. Les heures excédentes seront payées aux ouvriers dans la proportion de leur salaire et dans aucun cas ils ne pourront refuser un excédent de travail, quand les circonstances l'exigeront, sous peine de 2 francs d'amende. Article 8. Tout ouvrier en retard de 10 minutes sera mis à une amende de 25 centimes. S'il manque complètement, il paiera une amende de la valeur du temps d'absence. Article 9. Une fois entré, un ouvrier ne peut sortir sans une permission écrite, sous peine d'une amende de la valeur de sa journée. Article 11. L'ouvrier qui se présenterait ivre dans les ateliers sera conduit hors de la fabrique et paiera 3 francs d'amende. Il est expressément défendu d'aller dans le cabaret qui est en face de la grille. Article 16. Toute ouvrière qui laverait ses mains ou des effets quelconques avec le savon de la fabrique paiera 3 francs d'amende. Si elle était surprise en emportant, elle serait renvoyée et sa paie confisquée. Article 17. Il est défendu aux ouvriers de jouer, jurer, crier, chanter, se quereller ou se battre dans les ateliers, manger ou dormir pendant les heures de travail, d'aller en bateau, de se baigner et de courir dans la propriété, sous peine de 25 centimes à 1 franc d'amende suivant la gravité du cas. Article 22. Il est expressément défendu de sortir de l'atelier sous quelque prétexte que ce soit pendant les heures de travail, d'aller plus d'une fois par tiers au lieu et de s'y trouver plusieurs en même temps, sous peine de 25 centimes d'amende. Il y a dans chaque atelier une ouvrière chargée spécialement de remplacer celle qui désire sortir. En conséquence, avant d'arrêter son métier, l'ouvrière doit s'assurer si la remplaçante est libre et la mettre à sa place avant de quitter sous peine d'un franc d'amende. Article 24. Quiconque arrêtera son métier sans nécessité, s'habillera avant l'heure, paiera 25 centimes d'amende. Règlement d'une filature d'Essonne, 1828. Affiche Archives nationales. La partie est et nord-est de la Sarthe a connu du XVIIe au XIXe siècle une importante activité textile, particulièrement vouée au chanvre. Les derniers tisserands à domicile, encore nombreux vers 1880 dans les régions de Mamers, La Ferté-Bernard et Saint-Calais, ont totalement disparu peu après la guerre de 14-18. D'abord parce que la mécanisation de la filature et du tissage avait rendu leur travail trop lent et trop peu productif. Ensuite parce que l'évolution des goûts condamnait la toile, c'est-à-dire le tissu de chanvre ou d'un mélange de chanvre et de coton. Les témoins n'ont pu oublier le caractère pénible du travail de tisserand. D'une part, il est accompli dans une cave, le seul endroit du modeste logement qu'on puisse encombrer du gros outil de production, et le seul local dont la température soit régulière et le degré d'humidité satisfaisant pour travailler le textile. D'autre part, en raison de la modicité des salaires versés selon le métrage, les journées sont chargées, 12 à 14 heures, et mordent sur l'ennemi. De sérieuses menaces pèsent sur la santé des tisserands. Cave humide et mal chauffée l'hiver, poussière de chanvre et de coton, produits de teinture de mauvaise qualité, éclairage insuffisant, surmenage. Avec la maladie, un fragile équilibre se trouve rompu. Malgré une éventuelle indemnité de la société de secours mutuel, l'ouvrier en arrêt de travail rejoint temporairement le groupe des indigents. Le souvenir pressant de cette insécurité faisait dire à une ancienne tisseuse de la Ferté-Bernard « Où ils ont été les plus heureux, mes parents, c'est quand ils ont été à l'usine. » Vers 1900-1910, l'entreprise de tissage mécanique Béalet versait 3 francs pour des journées de 10 heures environ. Or, le tisserand à domicile, en dépit d'un labeur harassant, ne peut espérer dépasser 50 à 55 sous, puisqu'il est payé à la tâche selon la longueur et le fini de la pièce qu'il rapporte au fabricant. Pourtant, si l'entrée à l'usine apporte à certains le sentiment d'échapper à la misère, la mémoire collective nous transmet un écho différent. Rien ne valait la liberté du tisserand qui, maître de son temps, ignorait la servitude d'un horaire. Une fertoise qui a tissé dans sa cave jusque vers 1930 affirme « C'était le rêve, on était libre, on était bien décidé, on en faisait une bonne journée. Si on se trouvait un jour moins en train ou si on avait du travail à la maison, eh ben on était tranquille. » Le dimanche n'était pas forcément jour de repos, du moins le matin. L'après-midi, parfois, la famille ramasse de l'herbe pour les lapins. Mais les tisserands ont l'habitude de faire le petit lundi. Le matin, ils se rendent au marché et l'après-midi à la pêche. Cette liberté, relative, permet aussi la rentrée de modestes revenus complémentaires. Quelques tisserands exercent une sorte de métier d'appoint, pompiers, fossoyeurs. Beaucoup savent rendre de petits services, entretiennent des jardins, réparent sabots et galoches, rentrent et fendent le bois des particuliers. Mais l'opération la plus fructueuse reste la moisson en bosse, qui provoque chaque été la ruée de nombreux Sartois vers l'Eure-et-Loir. La moisson apportait une somme appréciable qui pouvait tripler le salaire d'un mois et servait à payer le loyer, le pain des précédentes semaines, le bois pour l'hiver, les pommes à cidre. Elle permettait aussi de saler du beurre et plus rarement un peu de porc. Hubert Néant, autobiographie d'ouvrier sartois, colloque sur la mémoire ouvrière, écomusée du Creusot, 1977.